Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour, vous écoutez Graphite sur 94.9 et sur graphite.net. Je suis Stéphane Poinçard, en direct du studio avec 4 étudiants de l'Université Technologie de Compiègne, Jules, Louise, Antoine et Mathis. On se retrouve pour des émissions autour du cours WE1 « Questionner le web » de l'UTC. Les étudiantes et étudiants viennent y présenter le résultat de leur recherche du semestre, articulée autour de questions socio-techniques portant sur le web. On commence avec la première intervention, la surveillance d'État. Je passe la parole à Jules et à Louise pour nous en dire plus.
Dans le monde des intelligences artificielles, il y a celles qu'on choisit d'utiliser et celles qui le sont à notre insu.
Controversées, ces dernières entrent notamment à l'œuvre dans le secteur non moins polémique de la surveillance automatisée.
L'article Predictive Policing Software Terrible at Predicting Crimes a été écrit par Aaron Sankin et Surya Mathu et publié sur The Markup. Il porte sur l'efficacité des algorithmes de prédiction des crimes. Une société privée, Geolitica, a développé un algorithme permettant aux services de police de prédire les crimes afin d'optimiser les patrouilles et les interventions. Plusieurs services de police l'ont testé, dans cette optique pensant gagner en efficacité. Cependant, les résultats montrent un algorithme peu efficace. En effet, sur 23 631 prédictions, seuls 100 se sont révélés vrais. Pour les vols et les agressions, on a un taux de réussite de 0,6% et pour les cambriolages, 0,1%. De plus, les prédictions sont vagues sur l'horaire des crimes, empêchant une réelle surveillance efficace et une planification pertinente. Au-delà de la faible précision, il existait une décorrélation majeure entre le nombre de prédictions et la réalité du terrain. Le logiciel prévoyait jusqu'à 80 prédictions par jour pour un maximum de 22 crimes et délits enregistrés pour la juridiction de Plainfield. Geolitica a elle-même confirmé cette information à un autre service de police en disant que le logiciel pourrait ne pas être efficace dans les communautés où la criminalité est faible. Le département de police de Plainfield a même fini par arrêter d'utiliser ce logiciel car jugé peu utile. En effet, selon les autorités, le logiciel n'a jamais été utilisé pour diriger les patrouilles et n'a amené aucune arrestation. En conséquence, l'argent investi dans ce logiciel aurait pu être mieux utilisé et aurait pu par exemple aider un programme de tutorat pour les jeunes. De plus, selon Anna Lalley, la chef de police d'Elgin, les agents sont tout aussi capables de faire de bonnes prédictions que les machines. L'algorithme serait alors jugé inutile et redondant par rapport aux prédictions humaines. David Westbird, un criminologue, affirme même que l'algorithme a fait perdre du temps aux policiers l'utilisant.
Aujourd'hui, la société a cessé ses activités et a été rachetée par une entreprise concurrente, SoundThinking. Cette dernière affirme vouloir continuer à développer un outil de prédiction, mais sans utiliser les codes sources initiaux de Geolitica. Le logiciel est peu efficace, comme montré précédemment, mais en plus, il amène des problèmes d'équité et de biais. En effet, l'algorithme ciblait systématiquement les quartiers noirs, latinos et à faible revenu. Cela vient peut-être du fait que ces ménages ont plus de chances de signaler un crime dont ils sont témoins, mais cela baisse les données d'entraînement. Cependant, il est possible que l'algorithme lui-même soit codé sur des stéréotypes ancrés dans la société. Selon Dylan Reitman, ce système a contribué à augmenter les inégalités. En effet, les discriminations dont ferait preuve ce système viennent s'additionner au profiling racial déjà à l'œuvre dans les forces de police, avec des conséquences sérieuses. Une étude, publiée en mai 2019 dans le journal de la National Academy of Sciences, a démontré que les jeunes d'origine afro-américaine et latino ayant été contrôlés par la police le vivent comme une expérience traumatique, ce qui augmente leurs chances de tomber dans la délinquance dans le futur par rapport aux autres. On est en présence d'un cercle vicieux que la répression prédictive vient encore aggraver. Certains, Geolitica les premiers, tentent donc de proposer un autre usage pour ces algorithmes. Ainsi, disent-ils, un usage plus éthique de ces modèles prédictifs serait de les utiliser pour comprendre les causes de forte criminalité, afin d'ouvrir un dialogue et de trouver des solutions sociales plus que policières, afin donc d'échapper à cette logique de répression. Là aussi, toutefois, les études manquent pour montrer la véritable efficacité de ce genre de pratique. On écoute Félix Tréguer, chercheur au CNRS et membre de la Quadrature du Net, sur l'évolution de ces algorithmes de surveillance en réponse aux séries d'émeutes aux USA des années 60-70.
Et là, c'est un peu un moment de panique, là encore, de nouveau, des élites aux États-Unis. Et en fait, toutes ces élaborations d'un urbanisme cybernétique en fait, vont se concentrer sur les applications les plus directement policières. Et on voit plein de communes à l'époque commencer à envisager le croisement de données pour gérer les classes les plus pauvres. Et ça implique à la fois les aspects policiers, lutte contre la délinquance, mais déjà, ce qu'on évoquait tout à l'heure en parlant de la CAF, les données sur l'absentéisme scolaire, des données sociodémographiques, des données sanitaires, qui vont permettre comme ça d'aiguiller en fait la prise en charge des pauvres et notamment des quartiers, enfin des communautés noires aux États-Unis. Et c'est vrai que c'est assez saisissant, je reviens sur plusieurs rapports qui sont produits à l'époque, mais de voir comment les programmes de politique publique sont édictés à ce moment-là pour gérer cette crise sociale très forte, cette crise de gouvernementalité, comme dirait Foucault, à quel point ce programme ressemble à ce qu'on voit aujourd'hui, quoi. C'est optimisation, c'est prédiction, c'est identification biométrique. Et il y a beaucoup d'expérimentations comme ça qui sont lancées parce qu'il y a aussi beaucoup d'argent qui arrive de la part notamment du budget fédéral aux États-Unis pour financer ces choses-là. Et à côté, il y a évidemment toute une industrie informatique qui trouve là des marchés tout frais, tout chaud et qui peut du coup financer ces recherches et promouvoir justement l'infiltration de ces machines, notamment des machines d'IBM.
La surveillance d'État est un concept historique. En effet, peu importe les régimes politiques, elle a toujours existé, même dans une démocratie. Dans celle-ci, la surveillance se justifie par la nécessité de la sécurité pour les citoyens. Cependant, elle reste principalement secrète. Depuis l'essor de l'ère technologique, il est d'autant plus facile de récolter les données nécessaires à cette surveillance. Aujourd'hui, les données sont collectées automatiquement et stockées massivement, permettant d'élargir le spectre de la surveillance d'État. Le nombre de données exploitées ne fait que grandir avec l'augmentation des possibilités numériques. Et son exploitation est rendue d'autant plus facile que les algorithmes montent en puissance et que l'IA devient de plus en plus prévalente. Un concept d'automatisation complète des villes est né de cette surveillance d'État, la Smart City. Ce concept désigne la gestion numérique automatisée et centralisée de l'espace public. Cela passe par la gestion numérique des réseaux de transport, de l'éclairage, de la circulation, de la population et de la sécurité. Aujourd'hui, ce concept des années 90 a été abandonné pour laisser place à la Safe City. Elle répond à la demande croissante de sécurité des villes. Cela correspond au même principe que la Smart City, mais uniquement sur la sécurité, sans cybernétique. Elle se concentre uniquement sur le maintien de l'ordre et de la sécurité.
Cette Safe City permet pour la première fois d'individualiser la surveillance massive de l'espace public. À mesure que la quantité de données issues de la surveillance augmente avec l'émergence des nouvelles technologies, les gouvernements se tournent vers des entreprises technologiques pour collecter et analyser les données. La surveillance passe aujourd'hui par des algorithmes pouvant servir à prédire la criminalité, fournir des services publics, allouer des ressources, prédire les taux de récidive, etc. Ces discours hégémoniques prônant la sécurité servent à justifier une surveillance de plus en plus large tout en n'envisageant aucune solution alternative. Le contrôle devient alors la norme en écartant les débats sur les libertés. Ainsi, ces algorithmes de prédiction se révèlent décevants par rapport aux espoirs que les diverses forces de police ont placés en eux. Peu précis, n'améliorant pas la productivité, les promesses des startups de la tech Big Brother semblent bien loin. Qui plus est, au-delà de l'aspect pratique limité, se pose la question de l'aspect éthique. La collecte des données se fait souvent aux dépens de la population, qui se retrouve involontairement surveillante et surveillée. Grâce à la privatisation des services publics, et à la toujours plus grande délégation des tâches de ceux-ci à des entreprises privées, toutes ces données se retrouvent sur un marché très peu régulé, où elles peuvent être vendues à des fins politiques ou commerciales. Facebook Europe a, par exemple, été condamné pour mésusage des données personnelles à des fins publicitaires. Tout cela à l'insu des usagers, bien souvent laissés dans l'ombre quant à l'usage qui est fait de leurs données personnelles.
La partie répression est aussi questionnable. En automatisant le processus, on le rend moins humain et on fait du policier un simple bras armé de la répression institutionnalisée. Alors que le métier de policier ne peut pas se résumer à ça. La prévention des crimes, le dialogue avec la population et tout simplement une présence rassurante sont tout autant d'actions qui permettent aux gardiens de la paix de préserver celle-ci. Le caractère décisionnel de ces algorithmes qui vont jusqu'à dispatcher des patrouilles, n'est pas sans évoquer les œuvres de fiction les plus dystopiques. Souvent invoquées en vain, Minority Report et Haute 1984 semblent représenter de plus en plus un futur proche. Haute problématique à caractère politique, à sa base, ce modèle d'algorithme repose sur un système de black box, où les informations sont traitées de manière opaque, suivant un algorithme propriétaire aux voies impénétrables, sauf à ses développeurs. Ce genre de fonctionnement, très répandu dans les produits des entreprises de la Silicon Valley, enlève tout droit de regard pour les citoyens quant au fonctionnement de leurs forces de l'ordre, ce qui soulève des questions quant à son respect de l'idéal démocratique.
Ainsi, cette capacité prédictive ne remplace pas un travail de fond socio-économique par les différents acteurs de la ville, qui s'emploient à traiter les causes de la criminalité plutôt que les conséquences. On peut penser aux agences de planification urbaine qui, ayant identifié les terrains vagues comme étant des zones criminogènes, se sont employées à les réaménager en espaces verts, désormais bien plus tranquilles et profitant à tout le monde. Comme beaucoup de fois, si la répression donne un effet au court terme, c'est le travail social en amont qui pourra résoudre les problèmes à la racine.
Merci pour cette intervention. Finalement, quand on utilise la technologie pour prédire quelque chose d'imprévisible, on peut quand même prédire que tout cela risque de ne pas marcher. Je fais maintenant la prédiction que la prochaine intervention va nous parler de propagande et de la manière dont la technique amplifie ses effets négatifs. Antoine et Mathis, c'est à vous.
Merci Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de la thèse TAC, qui est pour nous une thèse très intéressante et qui nous touche tous les jours. En effet, la définition de la thèse TAC est que la technique est constitutive, d'après notre cours de W1. Cela signifie que les techniques sont primordiales pour l'humanité, et plus précisément pour nous, êtres humains. L'humain est alors lié intrinsèquement aux techniques. Notre module de W1 nous explique que la technique, contrairement aux possibles préjugés, est ni bonne, ni mauvaise et ni neutre. Malgré que chaque outil ait été créé dans un but précis, la manière dont on va l'utiliser va dépendre de l'utilisateur en question. De ce fait, il est impossible de dissocier la technique par l'un de ses adjectifs. Par exemple, si l'on dispose d'un marteau, plusieurs utilisations s'offrent à nous, telles que frapper quelque chose ou simplement le caresser, changeant ainsi sa nature, mais aussi son utilisateur.
En effet, selon ce même module, la technique est une prothèse originaire de l'humain. C'est-à-dire que la technique est un objet, une méthode ou encore une idéologie créée par l'humain et étant un prolongement de celui-ci, quelquefois défini comme une prothèse pour l'homme. Ces techniques modifient donc le cadre même dans lequel nous agissons et pensons. Pour Ellul, un philosophe français, la technique va jusqu'à transformer l'humain. L'outil utilisé par l'humain va lui permettre de réaliser différentes choses inaccessibles auparavant. Un lien entre l'utilisateur et l'environnement va se créer sans que celui-ci remarque que ce lien est dû à l'outil qu'il utilise, il devient alors invisible à ses yeux. Prenons un exemple avec un outil que l'on utilise de nos jours comme le vélo. Le vélo est un outil utilisé par l'humain pour se déplacer, que ce soit sur une route ou un chemin. Lorsque l'on va l'utiliser, nos pieds ne toucheront plus le sol, mais nous ressentirons quand même les imperfections de la route. Nous pouvons donc en conclure que cela modifie bien notre environnement. Pour compléter l'idée de cette thèse, son but est de déterminer comment et en quoi la technique change notre être au monde, car l'homme et la technique sont couplés depuis leur origine et évoluent simultanément. On peut par exemple citer que la machine à vapeur a déclenché la révolution industrielle dans le monde, et donc le développement de l'homme est simultané de la technique.
Ici, nous allons aborder à travers le point de vue d'un auteur du XXe siècle, un ensemble de techniques utilisées en 1928 pour influencer les populations, qu'il a nommé « propaganda ». En effet, dans les pages du livre d'Edouard Bernays, publié en 1928, l'auteur explore les mécanismes de manipulation de l'opinion dans une démocratie de l'époque. Il explique comment dans tous les domaines, politique, économique, culturel, éducation et art, la propagande, qui est ici utilisée plus pour parler d'influence globale des opinions à travers notamment des articles de presse, est utilisée pour orienter les pensées, les goûts, les comportements de masse. À travers des exemples concrets et des analyses inspirées de la psychologie des foules, il montre que cette influence est souvent exercée par des acteurs invisibles, ce qu'on appelle les chefs d'opinion, qui contrôlent en coulisses les décisions collectives. L'auteur revendique l'usage de la propagande de l'époque comme un outil de gouvernance, insistant sur son efficacité, mais soulevant aussi des questions éthiques sur la place dans une société démocratique. Dans son premier chapitre, Bernays expose l'idée centrale de son ouvrage. Dans une démocratie, la manipulation intelligente de l'opinion est non seulement possible, mais nécessaire pour assurer l'ordre social. Il commence par une affirmation choc. Nous sommes dirigés par un gouvernement invisible, composé de personnes qui influencent nos pensées, sans que nous nous en ayons conscience. Ces influenceurs sont des experts, des leaders d'opinion, des personnalités dans les médias ou la publicité. Ils orientent nos idées, nos achats, nos votes et même nos valeurs. Nous retrouvons dans cet ouvrage différentes techniques et moyens de manipulation sociale. Tout d'abord, il y a la simplification du choix. C'est très simple. Pour éviter la confusion dans une société complexe, ce gouvernement invisible, comme il l'appelle, réduit notre champ de décision. Par exemple, dans une élection, les partis ne proposent que quelques candidats. Dans le commerce, la publicité ne nous guide que vers certains produits. Ce tri préalable facilite nos choix et oriente notre opinion sans que nous en ayons réellement conscience. De plus, l'usage massif des médias est également utilisé. Grâce à l'imprimerie, à la radio, au téléphone et aux autres moyens de communication, les idées se propagent très vite. Ces outils deviennent alors les bras armés de la propagande. Ils permettent de toucher des millions de personnes et de créer un consensus.
Pour continuer, la segmentation sociale fait partie de ces manipulations. Bernet décrit une société structurée en milliers de groupes d'intérêts, associations, clubs, syndicats, etc. Pour influencer l'opinion, il suffit de cibler ces sous-groupes avec des messages adaptés, souvent relayés par leurs propres leaders. On appelle cela aujourd'hui du micro-ciblage. L'autorité des leaders est bien sûr un autre type de manipulation. Plutôt que de convaincre chacun individuellement, on influence une figure reconnue par un groupe qui transmettra ensuite l'idée aux autres. C'est la force du bouche-à-oreille encadré. Enfin, l'acceptation volontaire de la manipulation régit notre système. En effet, selon Bernet, les gens préfèrent déléguer la réflexion à des experts ou à des figures de confiance parce que réfléchir individuellement est trop complexe. Cette paresse cognitive permet aux manipulateurs de s'installer sans résistance. En résumé, pour Bernet, la propagande est un outil indispensable pour organiser une société de masse. Il ne la présente pas comme une tromperie malveillante, mais comme une méthode rationnelle pour diriger efficacement une foule dispersée. La question morale reste entière. Peut-on vraiment parler de démocratie quand les opinions sont fabriquées par quelques-uns ?
On peut alors relier cette idée de propagande et de manipulation en 1928 avec la thèse TAC développée et expliquée précédemment. En effet, la propagande sociale développée et expliquée dans le livre Propaganda utilise de nombreux outils médiatiques pour arriver à ses fins. Or, chacune de ces manipulations va modifier des points de vue, ou encore des opinions, que ce soit pour des choix insignifiants, mais aussi pour des opinions politiques. Cet ouvrage datant d'il y a plus d'un siècle ne décrit pas le terme propagande comme on pourrait l'entendre aujourd'hui, notamment grâce à l'arrivée de nouvelles technologies. Propaganda nous décrit la propagande dans les médias de 1928, comme un moyen de toucher des groupes, des associations ou encore des syndicats. Aujourd'hui, la collecte de données personnelles est rendue possible grâce à des systèmes comme les bulles de filtre, qui espionnent vos préférences sur les réseaux sociaux, pour ensuite pouvoir cibler un contenu, pouvant possiblement vous intéresser. Ces systèmes permettent de cibler des messages de propagande à un niveau individuel, plus rapide et à moindre coût.
Par exemple, à partir de 2014, la société Cambridge Analytica a exploité à l'insu des utilisateurs les données de 87 millions d'utilisateurs Facebook. Puis, elle a construit un profil psychologique de chaque utilisateur. Ses insécurités, son désir d'opportunité. Enfin, ces données ont été exploitées par le Parti républicain aux USA pour afficher des messages personnalisés. Ces messages ne cherchent plus seulement à faire adhérer les lecteurs au programme du candidat, mais poussent la manipulation émotionnelle à une échelle individuelle. Malgré cet aspect d'espionnage, les médias d'aujourd'hui offrent à la population un moyen de pouvoir s'instruire plus aisément. De nos jours, la démocratie permet à quiconque de pouvoir s'exprimer, communiquer ou encore partager des informations ou des passions sur Internet. Si vous êtes soucieux d'agir selon vos convictions, plutôt que sous l'influence de la propagande, nous vous recommandons de faire preuve d'esprit critique. Par exemple, se baser sur des informations construites de manière transparente selon une démarche qui nous laisse l'opportunité de vérifier et contredire. On appelle cela le principe de la réfutabilité.
Merci pour votre intervention. Finalement, un siècle après cet article de 1928, on se rend compte que l'on avait moins de soucis à se faire sur l'intrusivité des technologies de l'époque. J'espère que les étudiants qui écouteront les archives de votre intervention sur Graphite dans un siècle, en 2125, ne penseront pas la même chose, qu'ils ne se diront pas « Finalement, les technologies intrusives de 2025, ce n'était pas grand-chose par rapport à celles de 2125 ». Avant d'en arriver là, faisons en sorte de former des ingénieurs qui veulent construire un monde plus durable et plus agréable à vivre. C'était la surveillance d'État et la propagande en 1928 et aujourd'hui, avec Jules, Louise, Matisse et moi-même, Stéphane... j'ai oublié quelqu'un. Pardon, Jules, Louise, Antoine, Matisse, non c'est bon, et moi-même. Je vais également citer Stéphane Croza, le responsable des enseignements WE1 à l'UTC, et Quentin Duchemin, qui prend également en charge une partie des cours et des TD. Je remercie pour l'aide à l'organisation de ces émissions. Cette émission est donc réalisée dans le cadre du cours WE01 à l'UTC et du projet LibreCours.net. Elle est diffusée en direct depuis le studio de Radio Graphite le 18 juin 2025. Et c'est le dernier épisode de la radio WE1 pour ce semestre. Je vous remercie pour votre écoute. Au revoir à tous.